Vous aimez la littérature ?
Vous essayez de faire de la littérature. Vous pourrez peut-être m'aider à trouver une solution.
Ouais, essayez de cramberger un peu pour une fois.
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
Mon livre parle de masque comme métaphore. Une métaphore n'a pas un...
Quel essai ?
Ah, sacré Georges Perec. Un auteur que j'aime beaucoup, aussi bien dans les romans que quand il s'adonne à une espèce de sociologie urbaine. Et le texte dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui s'appelle « Espèce d'espace ». C'est un texte qui est paru en 1972 et qui m'a marqué, en tout cas dans les études que je pouvais faire à l'époque. C'est quoi « Espèce d'espace » ben, c'est ce journal hein, qu'il va établir dans ses sentiments vis-à-vis des espaces qu'il pratique. Il nous dit « L'espace de notre vie n'est ni continu, ni infini, ni homogène, ni isotrope. Mais sait-on précisément où il se brise, où il se courbe, où il se déconnecte et où il se rassemble ? On sent confusément des fissures, des hiatus, des points de friction. On a parfois la vague impression que ça se coince quelque part, ou que ça éclate, ou que ça se cogne. Nous cherchons rarement à en savoir davantage, et le plus souvent nous passons d'un endroit à l'autre, d'un espace à l'autre, sans songer à mesure, à prendre en charge, à prendre en compte ces laps d'espace. Le problème n'est pas d'inventer l'espace, encore moins de le réinventer. Trop de gens bien intentionnés sont là aujourd'hui pour penser notre environnement, mais de l'interroger ou... plus simplement encore de le lire, car ce que nous appelons quotidienneté n'est pas évidence, mais opacité, une forme de cécité, une manière d'anesthésie. C'est à partir de ces constatations élémentaires que s'est développé ce livre, Journal d'un usager de l'espace. Je vais vous lire ce qu'il dit dans son introduction, qui me semble intéressant quant à sa démarche intellectuelle. L'objet de ce livre n'est pas exactement le vide, ce serait plutôt ce qu'il y a autour, ou dedans. Mais enfin, au départ, il n'y a pas grand-chose. De rien, de l'impalpable, du pratiquement immatériel, de l'étendue de l'extérieur, ce qui est à l'extérieur de nous, ce au milieu de quoi nous nous déplaçons, le milieu ambiant, l'espace alentour, l'espace. Pas tellement les espaces infinis, ceux dont le mutisme, à force de se prolonger, finit par déclencher quelque chose qui ressemble à de la peur, ni même les déjà presque domestiqués espaces interplanétaires, intersidéraux ou intergalactiques, mais des espaces beaucoup plus proches, du moins en principe. Les villes, par exemple, ou bien les campagnes, ou bien les couloirs du métropolitain, ou bien un jardin public. Nous vivons dans l'espace, dans ces espaces, dans ces villes, dans ces campagnes, dans ces couloirs, dans ces jardins. Cela nous semble évident. Peut-être cela devrait-il être effectivement évident. Mais cela n'est pas évident, cela ne va pas de soi. C'est réel, évidemment, et par conséquent, c'est vraisemblablement rationnel. On peut toucher, on peut même se laisser aller à rêver. Rien, par exemple, ne nous empêche de concevoir des choses qui ne seraient ni des villes, ni des campagnes, ni des banlieues, ou bien des couloirs de métropolitains qui seraient en même temps des jardins. Rien ne nous interdit non plus d'imaginer un métro en pleine campagne. J'ai même déjà vu une publicité sur ce thème, mais comment dire, c'était une campagne publicitaire. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'à une époque sans doute trop lointaine, pour qu'aucun d'entre nous en ait gardé un souvenir un tant soit peu précis, il n'y avait rien de tout ça, ni couloir, ni jardin, ni ville, ni campagne. Le problème n'est pas tellement de savoir comment on en est arrivé là, mais simplement de reconnaître qu'on en est arrivé là. On en est là. Il n'y a pas un espace, un bel espace, alentour, un bel espace tout autour de nous. Il y a plein de petits bouts d'espace. Et l'un de ces bouts est un couloir de métropolitain, un autre de ces bouts est un jardin public. Un autre, ici tout de suite, on entre dans des espaces beaucoup plus particularisés, de taille plutôt modeste à l'origine, a atteint les dimensions assez colossales et est devenu Paris. Cependant qu'un espace voisin, pas forcément, moins doué au départ, s'est contenté de rester pontoise. Un autre encore, beaucoup plus gros et vaguement hexagonal, a été entouré d'un gros pointillé, d'innombrables événements, dont certains particulièrement graves ont eu pour seule raison d'être le tracé de ce pointillé. Et il en était décidé que tout ce qui se trouvait à l'intérieur du pointillé serait colorié en violet et s'appellerait France, alors que tout ce qui se trouvait à l'extérieur du pointillé serait colorié d'une façon différente. Mais à l'extérieur du dit hexagone, on ne tenait pas du tout à être uniformément colorié. Tel morceau d'espace voulait sa couleur et tel autre en voulait une autre. D'où le fameux problème topologique des quatre couleurs, non encore résolu à ce jour, et s'appellerait autrement. En fait, pendant pas mal d'années, on a beaucoup insisté pour colorier en violet et du même coup appeler France des morceaux d'espace qui n'appartenaient pas au susdit hexagone et souvent même en étaient fort éloignés. Mais en général, ça a beaucoup moins bien tenu. Bref, les espaces se sont multipliés, morcelés et diversifiés. Il y en a aujourd'hui de toutes tailles et de toutes sortes, pour tous les usages et pour toutes les fonctions. Vivre, c'est passer d'un espace à un autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner. Vous reconnaîtrez que pour les couleurs, eh bien, le violet s'est transformé en 45 ans en bleu, voire bleu marine. Bon courage, bonne lecture.